chacun de vous de me permettre de partager, je vais le prendre à la main, ce sera plus simple, ces moments bénis en votre compagnie fraternelle, votre désir pour le Seigneur. Nous prions chaque jour avec Brigitte en pensant à l'Église, en pensant au couple pastoral et nous vous bénissons de tout notre cœur pour le fait que vous soyez là et que vous puissiez entendre sa voix et le servir. Petite piqûre de rappel, ce matin nous avons parlé de l'épreuve de notre foi, j'allais presque dire des épreuves liées à notre foi, et comment notre foi en Jésus nous conduisait vers la reconnaissance, l'assurance, l'obéissance, l'engagement missionnaire et l'espérance. Et que forcément cette foi va être mise à l'épreuve. L'adversaire désire nous faire perdre notre joie, notre enthousiasme, notre mission d'adorateur. Il désire nous faire perdre notre assurance d'enfant de Dieu. Il désire nous écarter de l'obéissance et de la soumission à sa volonté. Il désire nous faire perdre courage et nous détourner de notre mission d'être des fils d'exhortation et des missionnaires en son nom. Et puis, il désire nous faire perdre notre espérance et douter de notre espérance éternelle. Et je voulais juste conclure avec ce verset que je n'ai pas cité ce matin, mais qui m'est revenu après. Et Paul dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » J'ai gardé cette position en Jésus-Christ qu'il m'a donnée, ma nouvelle naissance, et toutes les missions qui étaient intégrées dans cette nouvelle naissance. Et j'ai été au défi, bien souvent, j'aurais pu renoncer, j'aurais pu perdre ces avantages, mais je les ai gardés en gardant ma foi dans le Seigneur. J'aimerais aborder avec vous une réflexion ce soir. Vous savez, mes interventions sont sous forme d'un entretien de partage et je crois que, comme le disait l'homme de Dieu dans le Nouveau Testament, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, l'onction vous enseigne. Quand nous sommes nés de nouveau, si nous laissons le Saint-Esprit régner sur nos cœurs, il saura nous faire retrouver la confirmation dans nos cœurs de la vérité que nous pouvons entendre et que nous pouvons vivre autour de nous. Le discernement, ça s'appelle. Et le Seigneur veut nous conduire. Il nous a, comme je l'ai dit ce matin, pas laissé orphelins. Donc, je veux partager certaines choses avec vous. Et je veux laisser ce partage sur la réflexion dans votre cœur en priant et en intercédant et en méditant, en laissant l'Esprit vous confirmer, vous diriger à ce sujet. C'est dans la deuxième épître de Paul à Timothée que j'ai trouvé un texte en fonction de la pensée que j'avais, parce qu'il faut quand même appuyer notre méditation premièrement sur la parole qui nous est révélée. Donc Paul écrit à son ami Timothée dans la deuxième lettre au chapitre 2 et au verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Donc, Paul avait son évangile. Voilà. Donc, nous partageons l'évangile de Paul. C'est l'évangile de Jésus-Christ, mais c'est quand même lui qui l'a pris à son compte. Et vous savez, c'est quand même curieux parce que ce Saul de Tarse était un homme vraiment, comme on dit populairement, remonté contre Jésus-Christ et l'Évangile. L'Évangile de Paul. En fait, c'est le résultat d'un bras de fer entre Jésus et lui. Vous vous souvenez comment il était virulent, comment il était malfaisant, comment il était puissant, comment il était fervent contre Jésus-Christ. En fait, il s'attaquait à la nouvelle doctrine, il s'attaquait à une doctrine. Mais là, sur le chemin de Damas, il va rencontrer une personne. Et l'évangile de Paul n'est pas d'abord fondé sur une doctrine, il est premièrement fondé sur une rencontre. Et ça, c'est quelque chose, après le Saint-Esprit lui a enseigné les choses. Mais ça, c'est quelque chose qui était fort chez lui. Ça a marqué sa vie, remarquer une pareille rencontre, ça marque. À partir de là, il s'en est pas rendu compte tout de suite sur ce bras de fer, mais Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il persécutait l'Église, il persécutait les chrétiens. Et Jésus s'intègre aux chrétiens. Il dit, c'est moi qui est concerné dans cette affaire. Et pour lui, qui devient Paul, la découverte de son évangile, c'est la révélation de l'autorité et de la suprématie de Jésus, rayonnant et plus fort que tous les engagements, les convictions, les religions, les connaissances, il en savait un rayon, nos natures, nos émotions, nos sacrifices, nos appuis, il en avait. Il a compris, qui es-tu, Seigneur ? Et que veux-tu ? Que je fasse. Ça, c'est une position fondamentale qui a défini toute la suite de son ministère et de sa vie. Que veux-tu que je fasse ? L'évangile de Paul, c'est Jésus est sur le trône, qui sait tout, qui contrôle tout, qui peut tout, qui prévoit tout, qui inspire aussi tous ceux qu'il décide d'envoyer. C'est quelque chose qu'il ne s'agit pas simplement d'une lubie, d'une tocade, d'une simple réflexion théologique. Paul enseigne, mais Paul vit. Il vit son enseignement. Il vit cet enseignement qu'il reçoit du Seigneur, car j'ai reçu du Seigneur, dit-il. Vivre à partir de notre position, l'évangile de Paul, notre position, c'est d'abord une intimité privée de relation avec la royauté de Christ. C'est l'examen de notre réalité, de notre misère, la révélation de notre pauvreté, de toutes nos connaissances, de toutes nos pensées, de tous nos appuis, de tout ce que et de toutes nos œuvres. Et de toutes nos cartes de visite, c'est la révélation de ma misère. Quel homme impressionnant à son époque, quel homme craint, quel homme dangereux. Mais face à Jésus, il n'est plus rien que du vent. Il le réalise, il le vit, il le reçoit. Et ça, Il pouvait même dire à un certain moment, en écrivant, il disait, je suis un avorton, je suis le moindre de tous les apôtres, parce que j'ai persécuté l'Église du Seigneur. Il se présentait pas comme certains le faisaient de son temps pour lui créer des ennuis. Il se présentait pas comme moi. J'ai été à un moment donné, il dit, vous m'énervez. Je vais parler selon votre folie. Oui, moi je peux dire, je suis. J'ai telle étude, j'ai telle carte de visite, j'ai ça. Mais je ne tiens pas compte de ça. Toutes ces choses, je les regarde comme une perte par rapport à l'excellence, la connaissance de Jésus. Ça, c'était son fondement, sa clé, sa réalité. Et ça, c'est l'évangile de Paul. D'abord, tu vis à partir d'une position. Tu es en Christ, tu es au pied du Christ, tu es sous l'autorité de Christ, tu es en relation avec lui. Et puis, Paul, c'est aussi celui qui a appris tout de suite à bénéficier de la communion fraternelle. Tu vas aller, Ananias vient, est prévenu, et puis après, il est pris en charge par les chrétiens, il est pris en charge et accompagné dans son jeune ministère par Barnabas, et puis il est appelé par les frères et le Saint-Esprit qui dit à tous, il vit en communion, il revient à Jérusalem pour rendre compte de son ministère. Il est, pour lui, l'Église, la communion fraternelle, c'est son ADN, si je peux dire, spirituel. Et là, on le voit qui n'est pas là en train de se gonfler comme certains de même de son époque le faisaient. Il est là simplement pour dire je suis pour mes frères que j'ai persécutés, pour ceux-là je vais travailler avec eux. Je pense à ce texte de l'Écriture qui dit est-ce que des hommes travaillent ensemble sans s'être convenus? Il y a la communion de la révélation et puis il y a cette entente, cette construction en commun. Et Paul a vécu ces deux choses-là. C'est son évangile, c'est sa façon d'être, sa motivation. C'est l'évangile de Paul aussi. Quelle motivation? Quelle est notre façon de nous engager et de servir? Pas pour nous, mais pour lui, pour l'Église et pour tous. C'est tellement différent que ce fameux esprit de parti, vous vous souvenez, dont il faisait mention. C'était un peu fou quand même, parce qu'il y a des gens qui prêchaient Christ pour lui casser les pieds. Il faut le faire déjà. Ça existait à cette époque-là. On dit, on va l'embêter. On va prêcher Christ mieux que lui. On va lui faire concurrence. On va... Alors Paul, il prend ça comme ça et il dit, c'est dommage. Mais enfin, écoutez, si Christ est prêché puis quelqu'un l'accepte, bon, moi j'avance. Quel homme, quelle grandeur de cœur finalement. Il a une vision, Paul. Et il en a eu plusieurs que le Seigneur lui a donné. Mais il a une vision pour l'Église. Il a l'espérance de la gloire. Il est animé par le prochain retour de Jésus. Il encourage tant et tant et tant de fois l'Église. Il voit l'avant. Il voit l'éternité. Il voit la gloire et il n'arrête pas d'en parler. Et puis, c'est un homme de l'esprit qui vit en communion avec son Seigneur, il est renouvelé par l'onction. Et nous avons tous besoin d'être continuellement renouvelés par l'onction de l'esprit. Et le Seigneur veut le faire, revêtu de son autorité, sans l'onction. Il n'y a pas vraiment de la manifestation de la réalisation de l'Évangile. Vous voyez ce qu'il dit, Jésus-Christ d'abord dans ce que nous avons lu. Elle fait référence même à son histoire de juif et son identité qui était avant tellement agressive de la postérité de David. Il parle de la résurrection du Jésus vivant. Et il dit, maintenant, où est-ce qu'il m'a ? Oui, voilà l'appel de Dieu. Je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir pour mon nom. Ça, il l'avait entendu. Et il l'avait reçu. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais il dit, ça fait rien, ça m'arrêtera pas. Parce que personne ne peut arrêter la vie, on en reparlera de ça, et de la parole du Seigneur. Alors il dit, je supporte tout, mais il ne dit pas pour mériter une médaille. Il ne dit pas, je supporte tout pour avoir la plus belle couronne. Il dit, je supporte tout à cause des élus. Parce que j'ai une passion pour eux. Et je suis prêt à tout encaisser pour que l'Église puisse entrer dans sa victoire, dans son ministère et dans la gloire. Voilà l'évangile de Paul. Et ça, c'était quelque chose de fabuleux. Maintenant, j'aimerais avoir une réflexion. Je cherche la note que j'avais mise ici. Ah oui. Vous savez que l'adversaire, s'il n'arrive pas à empêcher, il va détourner. il sait en ce qui nous concerne que comme être vivant sur la terre, créature de Dieu, il y a trois choses qui nous concernent. Notre identité, nos souffrances et notre éternité et notre espérance, si vous voulez. Et il va tabler là-dessus. Tentation de Jésus dans le désert, c'est la même chose. Tentation d'Adam dans le jardin, c'est la même chose. C'est toi, tu es important. Donc, il va essayer de nous montrer combien nous sommes importants, nous, et que nous serons comme des dieux, et que nous n'avons pas besoin de nous soumettre à qui que ce soit. Mais il ne dit pas que Dieu ment. Mais il dit, tu n'as peut-être pas bien compris ce qu'il dit. Oui, comme si... Et il essaye de nous libérer, entre guillemets, mauvaise libération, de l'autorité du Seigneur sur nous. Alors que le Seigneur est venu pour nous dire, soumets-toi à moi, je te rends libre de l'autorité et des séductions de l'adversaire, des limites de ta chair. Et je vais te donner une identité extraordinaire. Je t'appelle enfant de Dieu, héritier. Je t'appelle mon serviteur. Je t'appelle mon bien-aimé. Et je te glorifierai. Ça, c'est bon pour notre identité. Il nous respecte. Il ne nous détruit pas. Il ne nous humilie pas. Mais il nous amène à nous humilier devant lui pour recevoir cette identité glorieuse. Concernant nos souffrances, l'adversaire dit, tu souffres, pauvre malheureux, j'ai des méthodes pour calmer ta souffrance, en dehors de Dieu, de l'obéissance à sa volonté, de l'engagement. Si tu rentres là-dedans, tu vas tellement souffrir. Et finalement, quelquefois on s'est dit, allez, on va chercher les calmants du monde, les calmants pour la chair, les calmants pour nos peines, au travers de toutes sortes de pratiques ou d'amitiés qui ne nous entraîneront pas près de Dieu. Mais ça, c'est un piège, parce que ces calmants-là, ils nous détruisent, nous le savons bien. Alors que lui, il a dit, je vous consolerai. Et je vous donnerai mon esprit, le consolateur. Il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Déposez vos fardeaux à mes pieds. Voilà ce qu'il a dit. Je m'occuperai d'apaiser vos souffrances. Et en même temps, je vous donnerai une espérance, mais une vraie, pas une espérance terrestre. Ouais, si tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu vas voir, ça va marcher, tu vas réussir. Réussir quoi ? Sur la terre ? Mais non, le Seigneur nous dit, tu vas réussir parce que j'ai préparé pour toi. Et je veux que tous les hommes soient sauvés. Toi, l'élu, je t'ai élu avant la fondation du monde. Je veux que tu arrives dans la gloire. Je ferai tout pour toi. J'exprimerai toute patience. Je créerai toute occasion pour que ta foi, comme disait Jésus à Pierre, et nous y revoilà, pour que ta foi ne défaille pas. Alors, dans cette merveilleuse révélation du Seigneur, il dit oui. Je m'occupe de ton identité, je m'occupe de tes souffrances et je m'occupe de ton avenir. Et je suis le mieux placé pour le faire. Maintenant, nous avons, et là on arrive à... Je rebondis sur une réflexion qui a été dans la prédication de notre frère dimanche, Bordeneuve. Non pas qu'il y ait de faux évangiles. Enfin, il n'y en a qu'un, c'est l'évangile de Paul ou de Jésus-Christ, ce qui est la même chose. Mais forcément, il y a des détournements. Vous savez que l'adversaire, s'il ne peut pas empêcher la progression de l'évangile, il va essayer de le détourner. Par exemple, Jésus avait fait ça. Et vous savez, c'était quelque chose, et je crois que c'est quelque chose de naturel à l'homme qui échappe à l'autorité de l'Esprit. Prenez le peuple d'Israël. La révélation du Sinaï, quand même, c'était pas rien. Ils ont tremblé. Ils ont dit, nous obéirons, mais que Dieu se retire. C'était impressionnant. Et puis, vous savez ce que c'est devenu avec le temps. Mais du temps de Jésus, quand il parlait de la loi de Moïse, quand il parlait de la loi de Dieu, ça n'avait plus rien à voir avec le départ. Ils avaient rajouté un tas de traditions grosses comme le Larousse en 20 volumes. Et des centaines de commandements fabriqués. Seulement, le peuple était là devant et menacé de la moindre chose. Et c'est pour ça que Jésus leur disait, mais vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Quand on appelle une tradition parole de Dieu, quand on mélange révélation et religion. Et ça, c'est une question très délicate qui a toujours été dans l'histoire des croyants. Elle s'est reproduite dans le Nouveau Testament aussi. Paul se bat avec ça. Et par exemple, aux Galates, vous savez, il n'était pas content parce qu'ils étaient venus, même les Colossiens, il y en a qui venaient pour leur dire que Jésus c'était bien, mais c'était pas suffisant. Alors il fallait quand même se faire circoncire. Ou attention, il y avait des règles alimentaires strictes à respecter. Et alors il dit, c'est intéressant dans le sens où ça veut amener une certaine discipline, ça révèle, ça ne demande un effort, des consécrations, mais il dit, c'est juste simplement pour satisfaire la nature humaine qui est tellement satisfaite de ce qu'elle réussit pour Dieu. Mais est-ce qu'elle est encore en contact avec son Jésus? Et est-ce qu'elle est encore sous l'autorité de Jésus et de l'Esprit-Saint? Et ça, c'est quelque chose que l'apôtre s'est battu pour mettre en lumière des rituels religieux ajoutés à la révélation de Jésus Sauveur et à l'action de Jésus. Vous savez, il y a des rituels, si vous circulez dans toutes les églises du monde, chacun son petit rituel. Le problème, c'est pas qu'on ait nos habitudes, ça peut arriver, c'est pas bien méchant tout ça, mais quand nos habitudes deviennent la révélation de Dieu et que si jamais on les change, on est bon pour l'enfer. Et ça, c'est une permission terrible. J'ai connu des situations ubuesques comme ça, où il ne fallait pas changer certains mobiliers de l'Église parce qu'il avait appartenu à un temps où l'Église était extraordinaire. J'ai connu des gens qui pouvaient se battre parce qu'ils ont leur place attitrée. Ils voient, oh, c'est terrible. Et d'un seul coup, ça déclenche un problème spirituel, humain, mais affolant. Et là, on se dit qu'il y a un glissement, qu'il n'y a plus de vie spirituelle réelle et profonde. Vous avez un évangile qui a déformé aussi. Mais ça, l'adversaire est malin avec ça, ce n'est pas nouveau. Mais ça revient, qui a été généré peut-être par des églises qui étaient dans la souffrance physique, mais aussi surtout financière. Alors, si vous venez à Jésus, vous allez être plein aux as. Surtout si vous me donnez vos dernières économies, je vous promets, Dieu va vous bénir. Le faites pas, hein. C'est cet évangile de la prospérité, de la réussite qui fait rêver les gens à je ne sais quelle fortune. C'est pour gagner au loto. Alors, ne jouez pas au loto, mais croyez en Jésus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Jésus n'est pas venu pour ça. Mais c'est ainsi que certaines personnes à l'esprit fragile sont séduites par ces rêves. Nous ne voulons pas nous fatiguer à combattre ces choses. Simplement, nous les désignons. C'est tout. Mais nous traçons notre voie. Et nous voulons savoir ces choses. Il y a, hélas, ce que j'appellerais le syndrome de la voiture briquée. Vous allez voir. Vous connaissez ce monsieur qui a une voiture extraordinaire chez lui. Tous les jours, il la sort de son garage. Il la passe à la machine à lustrer. Et il met de la cire sur le côté pour que les pneus brillent. Et dedans, il met des shampoings, des parfums, des tout. Bah, génial. Personne n'a le droit de s'approcher de sa voiture. Il y aura une mouche, un scandale, et une trace de main. Impossible. C'est ma voiture, la plus belle voiture de la région. Et tu vas où avec ta voiture? Ah, mais je ne la sors pas. Elle va être usée, elle va être salie. Mais ça sert à quoi une voiture? C'est ma voiture et il faut qu'elle soit belle. Et il y a des gens qui veulent ainsi avoir une église qui lustre merveilleusement bien, qui ne sert à rien, mais ils sont très heureux et très fiers de leur belle église, de leur bel évangile. Et ils sont les meilleurs du monde. Mais ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a enseigné. Ça ne veut pas dire, et c'est là où on tombe quelquefois dans des extrêmes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entretenir ta voiture. Et qu'il ne faut pas s'en occuper, qu'il ne faut pas la soigner, et qu'il n'y a pas, la sainteté est un enseignement du Seigneur. Et tendre vers le meilleur est un enseignement du Seigneur. La moralité est un enseignement du Seigneur. Mais en même temps, quand c'est devenu la priorité de notre vision spirituelle, ça ne marche plus. C'est un détournement. Nous voulons garder notre vision spirituelle. Rassurez-vous, quand le Seigneur parle à nos cœurs, il saura y faire le ménage et nettoyer notre intérieur et même notre extérieur, d'ailleurs. Parce qu'il y a des comportements intérieurs et extérieurs qui sont propres à l'identité des disciples de notre Seigneur. Mais je parle là d'un détournement. Il y a de ces groupes, de ces communautés qui sont simplement des activistes. Vous savez ce que le Seigneur a dit à un moment à une certaine église? Je connais tes œuvres. Pas de problème. Nickel chrome. C'est une machine qui roule. Ça tourne à tous les niveaux. Mais il y a un truc qui ne va pas. On n'a plus de relation intime ensemble. Tu dis, moi, ça tourne chez moi. C'est bien pour la gloire de Dieu. Nous sommes une sacrée machine à faire les œuvres de Dieu. Il dit, Seigneur, c'est pas ça que je voudrais d'abord. Je veux que tu fasses mes œuvres. Je veux parce que la foi sans les œuvres, c'est rien. Et je vais t'appeler à faire mes œuvres. Mais je veux d'abord ce fameux premier amour. Je veux d'abord cette intimité. Je veux d'abord pouvoir avoir avec toi mon mot à dire et mon règne sur ton cœur. Tes œuvres, je les connais, mais je réclame ton cœur. Et si tes œuvres te rassurent sans que ton cœur ne soit près de Dieu, en danger. Parce que nous ne sommes pas là pour rassurer notre cœur, nous sommes là pour être en relation avec notre Seigneur. Bon, après, vous avez des personnes qui prêchent la facilité. Alors, c'est pas compliqué, on combat pas, on laisse faire le Seigneur. Vous savez, j'appelle là l'évangile musulman, Inch'Allah. Il arrivera ce qu'il arrive, laissons aller, le Seigneur s'occupe de tout. Ah bon? Moi, je croyais qu'il fallait combattre le bon combat. Je croyais qu'il fallait être les soldats du Seigneur. Je croyais qu'il faut être les sportifs qui courent, comme nous l'avons entendu l'autre jour, dans l'arène. Donc, le Seigneur n'a pas enfanté des gens qui sont irresponsables. Alors, il n'y a plus besoin de prier, il n'y a plus besoin d'intercéder. Bon, le Seigneur va s'occuper. Tout ça, il est au courant. C'est une démission absolue. Et le Seigneur n'est pas là pour nous enseigner un évangile de démission mais un évangile de mission. Alors, quelquefois, c'est aussi particulier. Je veux dire, il faut nous aimer les uns les autres, mes frères. Alors, moi, je dis amen. Et mes sœurs. Il faut aimer les pécheurs. Amen. Oh, puis finalement, si la parole de Dieu nous dérange, laissons-la tranquille. Et aimons-nous quand même. Hein? Si Jésus n'est pas concerné par son regard sur nos relations et sur la communion que nous pouvons avoir avec les pratiques de ce monde, alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons échappé à l'autorité du Seigneur et qu'il n'est plus notre roi. Mais tout ça au nom de je ne sais quel amour. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est pas l'amour en général. Ce qui nous intéresse, c'est l'amour de Dieu qui sauve les perdus et l'amour de Dieu qui remplit nos cœurs de sa sainteté et de sa justice. Et puis, vous savez, il y a ce que Paul disait, les Juifs cherchent des miracles. Je crois aux miracles. Amen. J'en ai été bénéficiaire dans ma propre vie, plusieurs fois, et dans ma famille. Et mon père a été sauvé de la mort, c'est pour ça que je suis vivant encore aujourd'hui. Sinon, il n'aurait même pas eu le temps de me faire. Mais on n'a pas de miracle à vendre pour attirer on n'est pas des camelots. Et si le Seigneur fait un miracle, nous le prêchons, nous le croyons, nous prions pour cela et nous l'attendons et nous le confessons qu'il nous l'a enseigné. Nous encourageons à prier et nous attendre à Dieu dans la foi. Mais si je dis, bon, ici, il n'y a pas de miracle, alors on va aller voir ailleurs, il y a certainement des spécialistes ailleurs. Si je cherche l'évangile comme je vais au voyant, c'est pas possible. Ne nous laissons pas impressionner par ce genre de choses. Provoquer même, humilier, en disant, ben chez vous c'est nul, il n'y a aucun miracle. Mais c'est pas si sûr que ça. Et il y a des miracles qui ne sont pas visibles, mais qui sont réels. Que le Seigneur soit glorifié parce qu'il est le Dieu des miracles. Mais ne nous laissons pas provoquer par ce genre de défi. Puis il y a des gens, avant, vous savez comment on appelait les réunions d'évangélisation. Aujourd'hui, alors là, on se fait carchériser. Hein. On appelait ça des croisades, comme les croisés à Jérusalem à l'époque. Et on était là pour gagner des âmes. Mais gagner des âmes, c'est une expression. À la fois que je peux pas refuser, mais en même temps, ce qu'elle comporte parfois m'indispose. Vous avez un carnet pour les âmes que vous avez gagnées, je me souviens. C'était terrible, j'ai connu un monsieur dans une église, c'est ubuesque, mais c'est vrai, le pire c'est que c'est vrai. Qui disait, il n'y a que moi qui évangélise ici. Alors il allait aux portes, tu mets l'évangile. Et puis, il y a des gens qui étaient intéressés. Ben, gloire à Dieu. Alors, il venait à l'église, mais il n'était pas tellement content. Parce qu'il disait, oui, mais il n'y a que moi qui évangélise dans cette église. Je peux vous dire le nombre d'âmes que j'ai amenées au Seigneur. Et quand il y a une personne qui se faisait baptiser, il rappelait, quand tu iras dans le baptême, tu diras que c'est moi qui t'ai amené. Oui, ça existe des mentalités comme ça. Des conquérants, des gens qui veulent absolument se faire une liste de réussites. Mais le pauvre monsieur s'est suicidé quelque temps après, parce qu'avec une mentalité comme ça, forcément. Mais il y a parfois de l'agressivité dans notre façon. Nous ne sommes pas là pour gagner des âmes, nous sommes là pour aimer les gens au nom de Jésus. S'ils viennent, alléluia. Et nous les gagnerons au Seigneur et à l'amour du Seigneur. Oui, en fait, c'est vrai aussi. mais soyons prudents avec notre façon de visionner notre mission. Oui, nous ne sommes pas des croisés qui veulent détruire le mal, vous savez, faire plier le méchant, conquérir le monde. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Vous savez, ils ont voulu faire ça avec Jésus. Israël, ouais, ça y est, on a notre leader, on va chasser les Romains. Jésus, je ne suis pas venu pour ça. Vous voulez faire une nation chrétienne qui va conquérir le monde. Ça, c'est la vision islamique de l'affaire. Mais vous voulez quoi? Vous voulez simplement remplir votre mission telle que Jésus vous dit. Oui, il y a une passion pour en côtoyer le plus, en aimer le plus possible. Mais laissons à César ce qui est à César et rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Il va être tellement... Vous savez, c'était compliqué. On voudrait que le méchant rende gorge. On voudrait qu'il soit à terre, au nom du Seigneur. Le Seigneur dit, c'est pas ça que je suis venu faire, moi. Je suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour le sauver. Et je vous demande pas de faire comme Pierre, de prendre l'épée pour... au nom du Seigneur, au contraire. Et c'était une complication même pour Asaph. Psaume 73, quand et moi j'ai rien compris. Il y a les gens qui sont contre Dieu, ils font n'importe quoi, et ils sont gros et gras, ils sont riches, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et moi, je donne, sacrifie mon âme, et qu'est-ce que ça me donne? Au bout d'un moment, il a dit, j'ai failli lâcher, hein. Jusqu'à ce que j'entre, ah voilà la clé, jusqu'à ce que j'entre dans ton sanctuaire, ma communion avec toi, irremplaçable pour renouveler ma vision de mon comportement au niveau de mes ennemis et des païens qui s'égarent loin du Seigneur. J'oserais ne pas continuer, il y aurait encore des choses, mais... par exemple, la théologie de l'angoisse du diable. Vous connaissez ça? Enfermez-nous, on a peur. Le diable nous guette, il va nous attraper. Il ne faut pas tomber dans l'inverse. Oh, je m'en fiche, Satan, je n'ai pas peur de toi. De toute façon, Jésus. Ah, non, ça, ce n'est pas moi non plus. Soyons prudents. Tenons-nous sagement prudents. Écartons-nous, mais surtout, restons tranquilles, parce que nous avons un protecteur. Et celui qui nous avertit. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, il y a des gens qui chassent les démons tous les dimanches. Et s'il n'y a pas de démons chassés, il n'y a plus de puissance. Mais moi, je suis d'accord, j'ai vu ce que c'est qu'une personne possédée, et la réaction par rapport à l'Évangile. Et on a pu prier pour des gens. Oui. Mais alors que si t'as un petit bobo, un petit machin, t'es un peu énervé, c'est le diable, bon, on va arrêter un petit peu, puis commencer à réfléchir, là, à se poser. Un jour, une première visite dans une église, je rentre chez une sœur, elle était prise avec tout ça. Elle voyait le diable partout. Tout. Et puis, je lui dis, mais ma sœur, on parle un peu comme ça. C'est déjà une personne âgée. Et puis, finalement, on prie ensemble, Seigneur. Et puis, elle commence à... et puis, se roule par terre. Il dit, bon, ma sœur, on va se relever, hein? Ça va aller? Ah oui, je sais pas ce qui m'a pris, excusez-moi. Mais peut-être qu'il y en a qui auraient fait des séances d'exorcisme de plusieurs heures, hein? Et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui ne chassent pas le diable là où il faut le chasser, mais qui le chassent là où il n'est pas. Un peu d'éducation, des fois, ça peut faire pas de mal. Mais ce sont des tendances dans certains groupes. Ce sont des colorations d'évangile que je voulais citer là. Mais moi, je ne veux pas condamner dans ce sens où je veux avertir et je veux dire, nous, soyons clairs sur l'évangile de Paul. Comment ça fonctionne et ce à quoi nous sommes appelés. Apprenons à être éduqués par le Saint-Esprit. À ne pas nous affoler, nous émouvoir. On sait que toutes ces choses se multiplieront à la fin des temps, au point de séduire les élus même, s'il était possible. Donc, on est prévenu. Mais notre sécurité, Notre joie, notre bonheur, c'est de dire, Seigneur, tu es le bon berger pour nous et tu nous guideras sûrement. Tu nous protégeras. Après, quand il y a des choses qui nous attristent, eh bien, prions pour ceux qui nous attristent. Bénissons-les et ne maudissons pas. Prions pour chaque enfant de Dieu, quelle que soit son histoire, sa coloration, parfois ses chutes ou ses égarements. Soyons bénissants au nom du Seigneur, mais soyons prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mais sachons ce que le Seigneur nous demande à nous, individuellement, personnellement. Quelquefois, on a vite fait d'avoir nos jugements sur les uns et sur les autres, mais le Seigneur dit, oui, ben, je comprends, mais j'aimerais bien. Et vous voyez la fameuse église là dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, mais je sais que tu as reconnu ceux qui se disent prophètes et qui ne le sont pas. Il y avait du discernement d'une certaine façon. Mais il dit mais c'est très bien tout ça. Mais maintenant ce que je veux avoir à faire c'est avec toi et avec ton cœur. Et je veux qu'on se soit des proches. Et je vais te conduire. Je vais t'inspirer. Oui, il va y avoir encore des hommes et des femmes qui vont souffrir pour les élus, jusqu'à peut-être être traités comme des malfaiteurs, ou on a traité Jésus de posséder des démons, alors bon, hein. On a traité Paul de rigolo, donc il y avait même un qui voulait même pas que l'apôtre Pierre vienne prêcher chez lui. Ah dis donc, il était gonflé lui, hein. Ah ben non, parce que c'était son précaré, il ne fallait pas toucher. Donc, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je veux dire, mais voici, dit Jésus, je suis le prince de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Et je vous donne le chemin, je suis le chemin pour la vie. Et moi, je vous entraînerai pas dans des délires. Il y a toutes ces choses qui sont liées à la fragilité de l'homme, mais le Seigneur est bon avec chacun de nous. Et nous voulons pouvoir vivre et dire ces choses avec un cœur apaisé, avec un cœur intelligent, avec un cœur lucide, avec un cœur éclairé, sachant que ces choses sont autour de nous et le seront peut-être de plus en plus. Mais ça sert à rien de nous lamenter. Prions, bénissons et travaillons avec le Seigneur. Et lui, il nous donnera ce qu'il a à nous donner et il nous fera faire ce qu'il a à nous faire faire. Vous savez qu'au fond, vous avez souvent entendu prêcher dans les prédications sur le tribunal du Christ, sur les œuvres qui seront consumées par le feu, les autres, etc. Ça appartient au Seigneur. On va dire, mais ils vont égarer des personnes. Bon. Laissez-vous marcher et le Seigneur vous conduira vers ceux qu'il cherche et ceux qu'il aime. Et puis, c'est ainsi qu'est la vie. C'est notre choix de vivre notre évangile de Paul, si je peux dire. Que l'évangile de Jésus, l'évangile de Paul, soit l'évangile de mon frère un tel, de ma sœur un tel, de ma sœur. Et je dirais, c'est mon évangile à moi. Il est en calque avec l'écriture, avec la révélation. Mais soyons prudents. Et ne le laissons pas gagner par l'histoire, les influences, nos émotions, notre culture, si tant est que nous en ayons, ou nos expériences ne sont pas la référence fondamentale. On peut vivre des choses intéressantes, mais nous ne sommes pas là pour... la doctrine, c'est lui qui l'a fait. Et c'est l'Esprit qui nous enseigne. Que son nom soit béni, que son nom soit béni, et que vous soyez bénis en son nom. Et que vous bénissiez aussi en son nom, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle et bon. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous savons bien que nous sommes dans des temps de confusion, parfois qui nous blessent, qui nous humilient, qui nous font souffrir. Mais en même temps, nous sommes appelés à nous rapprocher de toi, parce que tu es notre sauveur. Notre berger, tu as un avenir pour ton peuple, tu as un avenir pour tous ceux qui se confient en toi. Ô Seigneur, c'est notre rencontre avec toi, renouvelée encore et encore. C'est notre cœur soumis à ton autorité.